بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Chers frères en islam, nous avons lu ce soir la sourate Al-An'am et une partie de la sourate Al-Ma'idah, et nous avons lu l'intégralité de la sourate Al-An'am. Dans les versets 40 jusqu'à 42, 43 à peu près qu'on a lu, nous avons une leçon de la part de notre Seigneur concernant le rapport entre l'homme et les biens de ce monde et la valeur que les biens de ce monde a pour Allah Azza wa Jal. Et c'est un terme qu'on a utilisé hier et très souvent on l'utilisera. Ce verset fait partie des ayat qui nous permet de revoir l'échelle des valeurs. Notre conception des choses, elle est remise en question totalement à travers ce genre de verset. Parce que ce verset nous explique quand est-ce qu'Allah éprouve une personne et qu'est-ce qu'Allah attend de la personne éprouvée. Et si la personne répond favorablement à l'épreuve, qu'est-ce qu'Allah lui accorde? Et si la personne ne répond pas favorablement à l'épreuve, parfois Allah Azza wa Jal agit d'une certaine façon et cette façon d'agir-là, elle est déroutante parfois. Si on n'a pas la foi, on ne comprend pas la façon d'agir d'Allah Azza wa Jal, ce qu'on appelle tout simplement la sunnatullah, comment est-ce qu'Allah agit avec ses créatures, ben, il y a des fois où c'est déroutant et on a l'impression qu'une personne qui est dans l'erreur, qui est dans le péché, jouit pleinement de sa vie, mais en fait ses jouissances, ce bonheur, bien sûr on sait qu'il est éphémère, mais on a parfois l'impression que quelqu'un qui jouit des bienfaits, c'est synonyme de ni'ma, c'est synonyme de bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal, alors que les bienfaits qu'il est en train d'obtenir, associés à une vie de désobéissance, égale halak, égale destruction. Dans notre compréhension humaine, c'est normal, dans notre compréhension humaine, nous, une personne qui possède tout ce qu'il désire, ben c'est quelqu'un qui est comblé, oui ou non? Bon travail, madame, enfants, une maison, il est en bonne santé, il fait tout ce qu'il y a à faire. Seulement la personne ne prie pas, n'a aucune relation avec Allah Azza wa Jal. Mais sur le plan dunya, la personne a réussi, mais totalement. On a l'impression que c'est quelqu'un qui vit bien sa vie. Mais il faut savoir que si on additionne bienfaits de ce monde plus désobéissance permanente à Allah Azza wa Jal, le total c'est quoi? C'est istidraj, c'est une destruction programmée. C'est qu'Allah Azza wa Jal n'attend rien de cette personne. Et Allah lui donne tout compte fait ce que la personne désire. Allah accorde à ce makhlouk, à cette créature, ce qui pour lui est le plus important. Il se focalise sur les biens de ce monde, c'est tout ce qu'il veut, il respire pour ça, il donne son temps que pour l'argent, les biens de ce monde, et il n'a aucune envie de se rapprocher d'Allah. Ben quand Allah voit que cette personne a fixé ses limites aussi bas que ça, ben Allah Azza wa Jal, pour certaines personnes, il finit par leur donner ce qu'ils veulent. Parce que c'est peut-être tout ce qu'ils méritent. Mais on ne comprend pas ces phases-là. Et d'un regard extérieur, tu vois la personne, dit, bah, lui, il a réussi. Il a réussi. Mais Allah Azza wa Jal est en train de l'enfoncer, entre guillemets, de le faire chuter au plus bas, parce qu'il désobéit, et il a tout ce qu'un homme peut rêver de ce dunya. Ce qui veut dire que là-haut, plus rien. Ce qui veut dire également que lorsqu'Allah décide de reprendre tous ses bienfaits, ou décide de sévir la personne, c'est un couperet qui fait très mal. Ou peut-être qu'Allah ne le punit pas de ce dunya. Il le laisse mourir dans ses trésors et ses biens. Mais le jour de Qiyama, le retour auprès d'Allah, c'est un retour qui risque d'être extrêmement douloureux. Alors qu'une autre personne, un croyant, il prie, il fait ses doigts, il essaie de s'accrocher tant bien que mal à sa religion, et il vit différentes situations d'épreuves. Parfois, il essaie d'avoir un travail, il a du mal. Parfois, il essaie de s'en sortir financièrement, il a du mal. Et malgré ça, il ne rate aucune prière. Il se raccroche à Hablullah, à la corde d'Allah Azza wa Jal. Il essaie d'être un bon croyant. Mais vous savez, à travers cette ta'a, cette obéissance aux ordres d'Allah, et le fait qu'il soit patient dans toutes les épreuves qui le touchent régulièrement, vous additionnez obéissance totale à Allah Azza wa Jal, plus épreuves et difficultés dans ce monde, ça donne un croyant qui est aimé par Allah Azza wa Jal. Un croyant qui est aimé par Allah. L'échelle de valeur est complètement remise en question entre ce que la société nous inculque, la vision qu'elle nous impose, et ce que notre dîn nous enseigne. Ce sont là deux choses différentes. Donc on vient en verset, on n'a pas eu la traduction. Alors on va lire en français. Nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi. Ensuite, nous les avons saisis par l'adversité et la détresse. Et ça, c'est un signe de la part d'Allah. Quand il éprouve ses serviteurs par les difficultés, peut-être imploreront-ils la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. La'allahum. Et la'allah, c'est pour la crainte ou l'espoir. Et dans ce sens-là, c'est l'itaraji pour l'espoir. Afin que, avec espoir, qu'ils implorent la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire que là, on voit déjà comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal agit avec ses serviteurs. Quand Allah envoie une épreuve, c'est qu'il attend une réaction de la part de ses serviteurs. Et l'épreuve, elle peut être très compliquée, très complexe, ou l'épreuve peut être plus gérable. Allah Azza wa Jal éprouve l'homme en fonction de sa capacité à patienter, en fonction de son potentiel. Allah n'éprouve pas tout le monde de la même façon. C'est pour ça que Ashadun Nas et Bala'an, c'était qui? Les gens les plus éprouvés, c'était Al-Anbiya. Les épreuves des prophètes, c'était tout simplement insoutenable. Ça aurait été impossible pour un être humain comme nous. C'était que les prophètes qui pouvaient vivre des épreuves de ce niveau. Le plus éprouvé dans le domaine de la maladie, c'était Ayyub alayhi salam. Le plus éprouvé dans la trahison de ses proches, c'était Yusuf alayhi salam. Il a réalisé une grande épreuve de Lut alayhi salam qui a été éprouvée par son épouse qui n'a pas voulu adorer Allah azza wa jal et qui a été détruit devant lui, ou plutôt derrière, l'accompagner, et il a entendu la destruction qui a touché sa propre femme. Une grande épreuve pour Noé, Nuh alayhi salam, de voir son propre fils qui n'accepte pas le tawhid, l'unicité d'Allah azza wa jal, et qui va être détruit en même temps avec le peuple, alors qu'il a essayé de le convaincre. Il a donné les meilleurs des conseils comme un prophète, mais également comme un papa. Ce sont là des épreuves très difficiles et presque impossibles à surmonter pour un être humain qui a un niveau de foi classique. Donc, quand Allah envoie l'épreuve en fonction de la personne, c'est qu'Allah attend une réaction de foi et un retour vers lui. Et pour les peuples précédents, Allah les éprouvait par différentes difficultés avec en attente qu'ils implorent la miséricorde d'Allah. « Ayyad'ouna Allah wa yatadarra'ouna ilayhi wa yakhsha'oun » afin qu'ils fassent preuve d'humilité, de dévotion. Quand tout va bien, comme on dit, quand tu roules des mécaniques, quand tu es bien, tu es jeune, gonfle pectoraux quand il marche comme un coq, tout va bien, tu as l'impression que personne ne touche par matière là. Quand tu as une piqûre de rappel, il baisse sa tête et tu réfléchis. Tu as un problème de santé ou problème administratif ou autre chose, convoqué au commissariat pour des petits arriérés ou un passif qui revient, ainsi de suite. Tout d'un coup, tu te remets en question. C'est-à-dire, quand l'homme a un problème, il fait preuve d'humilité et de dévotion, du coup. Pourquoi de dévotion? Parce que c'est, comme on avait expliqué hier, c'est dans les difficultés que tu t'orientes vers Allah. C'est quand il y a un problème que tu penses à lever les mains et implorer Allah Azza wa Jal, et là, c'est comme si que ton Seigneur te recadre d'une certaine façon. N'oublie jamais ta place. Ta place, c'est le makhlouk, créature. Et au-dessus de toi, c'est ton khaliq et tu as besoin de lui. Pas parce que tu réussis tout ce que tu entreprends que tu es devenu autonome. Tu es devenu une créature autonome. Il n'existe pas de créature autonome. Je viens d'inventer le terme. Il n'y a pas de créature autonome. Nous dépendons tous de notre Seigneur. Le rizq que tu mets dans ta bouche, que tu avales, c'est fadlum min Allah. Et c'est par autorisation de la part d'Allah Azza wa Jal. Quand tu prends une bouchée de nourriture, C'est Allah qui donne l'autorisation pour que cela descende et que le mécanisme de ton corps puisse l'assimiler. Tout ça, c'est sous l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas un homme sur ce dunya qui est totalement autonome. Impossible. Rien dans ce qui est compliqué, ni dans ce qui est simple. Nous dépendons de... Et donc, l'épreuve, c'est souvent une piqûre de rappel pour que l'homme réalise qu'il a besoin de son Seigneur. Et l'épreuve peut faire avancer considérablement l'homme intelligent, l'homme clairvoyant. L'homme qui n'a pas d'intelligence, de foi et de clairvoyance, quand il y a une épreuve, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'accabler sur son sort, ou il va chercher des coupables, ou il va se plaindre sur tous les toits, ou il va se considérer comme le plus grand opprimé. Et il n'avancera pas spirituellement. C'est la pire des réactions. Ou pire que ça, il va se révolter contre la décision d'Allah Azza wa Jal. Il va s'enfoncer plus dans la désobéissance. Ça, c'est la pire des situations, des réactions. Et donc, quand Allah Azza wa Jal dit dans ces versets que la'allahum yatadharra'un, peut-être qu'ils reviendront vers Allah, qu'ils demanderont, qu'ils imploreront la miséricorde d'Allah, et ensuite Allah regarde comment ils agissent. Certains reviennent. Et donc Allah leur accorde ce qu'il accorde aux gens éprouvés qui répondent favorablement. Mais dans le verset cité, فَلَوْلَا إِذْ جَاهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَّتْ قُلُوبُهُمْ. Il y a deux problèmes. Un, le cœur qui devient dur. Alors on va lire la traduction. Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde? Est-ce qu'ils ont agi comme Allah attendait d'eux? Non. Ils n'ont pas imploré la miséricorde d'Allah. Ils n'ont pas réalisé que c'est une épreuve qui vient d'Allah et que la difficulté, c'est Allah qui envoie et l'ouverture, ça vient de la part d'Allah. Cette conviction de « wa iyyaka nasta'in », ils ne l'ont pas intégrée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mais leur cœur s'était endurci. Deux problèmes. Un, maladie spirituelle. Le cœur ne se soumet pas à Allah Azza wa Jal. Le cœur se renforce par la fierté, l'orgueil. Il se base sur lui-même, sur ses compétences. Ou bien s'il trouve de l'aide ailleurs, il ne s'en remet pas à Allah Azza wa Jal. C'est un cœur qui est en train de se perdre complètement. Parce que Allah le met dans une situation de détresse pour qu'il revienne vers lui. Mais il ne revient pas vers Allah, il va vers les créatures où il se replie sur lui, où il essaie de s'en sortir par lui-même. Donc c'est un cœur qui est en train de s'endurcir, qui ne s'ouvre pas vers Allah Azza wa Jal. Ça c'est le premier problème. Et le deuxième, donc, mais leur cœur s'était endurci et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Même dans l'épreuve, Shaitan travaille ton dossier. Quand tout va bien, Shaitan essaie de jouer avec toi. Il te fait croire que si tu travailles, si tu as ce salaire, en lui touche 3000 euros par mois, dit que parce que tu as fait des études, que tu es intelligent, parce que tu as réussi, parce que tu as des relations, parce que ainsi et ainsi de suite, il le fait croire qu'il mérite sa réussite. Et donc, qu'est-ce qui s'installe dans le cœur? Fierté, orgueil. D'accord? Et dans les difficultés, vous croyez que Shaitan va laisser un serviteur retourner vers Allah parce qu'il est éprouvé? Il va faire tout ce qu'il peut pour l'empêcher de retourner vers Allah. Et Shaitan va essayer d'embellir les péchés, faire en sorte que la personne ne trouve pas ce chemin vers Allah Azza wa Jal. Mais pour trouver ce chemin vers Allah dans les difficultés, cela nécessite iman, une présence spirituelle et un minimum de connaissances religieuses. Connaissance de l'histoire des prophètes, l'histoire des sahaba, la façon d'Allah, la façon d'agir de notre Seigneur avec ses créatures. Et s'il n'y a pas tout ça, ben la personne risque effectivement de ne pas répondre favorablement à l'épreuve. Et là, qu'est-ce qui se passe? وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Lorsque notre Seigneur, il explique que lorsqu'il a vu ces personnes se détourner de lui malgré l'épreuve, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. Puis lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toutes choses, c'est-à-dire les portes de l'abondance. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie, vous voyez les termes du Coran sont précis, ils ont atteint le paroxysme du bonheur, le summum du bonheur. Lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, c'est Allah qui leur a donné tout ça. C'est-à-dire que ces personnes, ils restent dans la mécréance ou s'éloignent d'Allah Azza wa Jal. Quand Allah voit que ces gens ne reviennent pas vers lui, malgré les difficultés, Allah, comme on a dit tout à l'heure en introduction, leur accorde ce qu'ils veulent, ce pourquoi ils vivent, ils respirent, ce dunya. Lorsqu'ils prennent le dunya des deux mains et ils voient que les problèmes prennent fin, ils sont en train de s'enrichir, ils sont en train de vivre dans l'opulence, dans le bonheur, quand ils vont atteindre ce summum de bonheur, Lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Ainsi fut exterminé le dernier reste de ces injustes et louange à Allah, Seigneur de l'univers, parce que c'est Allah qui agit comme il veut avec ses créatures et tout est dans les mains d'Allah. L'honneur est dans les mains d'Allah, le déshonneur dans les mains d'Allah. La richesse, la pauvreté, la santé, la maladie, les épreuves, c'est Allah qui envoie, c'est Allah qui les reprend et Allah agit avec ses serviteurs en fonction du retour de ses serviteurs envers leur Seigneur. Donc c'est une leçon concernant les peuples d'avant. Ils ont été éprouvés, ils n'ont pas eu la bonne réaction dans les épreuves. Au contraire, ils se sont renforcés de leur mécréance, de leur ignorance. Ils ont fait preuve d'orgueil et de fierté. Ils ne sont pas revenus vers Allah. Allah les a laissés obtenir ce qu'ils voulaient. Et Shaitan a embelli les péchés. Et ça, c'est un... C'est une faculté que le diable il a. Il l'utilise pour les gens qu'il veut amener vers le haram. Il l'utilise également pour les personnes qui sont dans le droit chemin et qu'il aimerait les ralentir un peu dans leur cheminement vers Allah Azza wa Jal. Shaitan a cette capacité, j'allais même dire ce pouvoir, cette faculté d'embellir les actions de l'homme. Lui faire croire que ce qu'il fait, c'est bon, il n'y a pas de mal. Et même quand il a mis un pied dans le haram, il va te dire qu'il y en a qui ont trois pieds dans le haram. Il y en a qui sont beaucoup plus loin que toi, donc ce n'est pas grave. On ne va pas s'affoler pour si peu. Il y en a qui font pire que toi. Ça, c'est une faculté que le diable il a. Qu'Allah nous protège. En sortant de la madrasa, je ne voulais pas vous le dire, mais je le dis, sortant de la madrasa il y a trois jours, je remonte en voiture jusqu'en haut pour soigner. J'étais très attristé de voir un jeune musulman du quartier, accompagné de quelques amis, rencontrer un groupe de jeunes filles. Et parmi ces jeunes filles, il y avait une fille qui avait les cheveux couverts. Je vois qu'ils sont en train de parler. Il était 17h20, il était 17h30. Tout d'un coup, ce jeune garçon embrasse la fille sur sa bouche. Ramadan. Je ne savais plus quoi faire. Je ne pouvais rien dire, ce ne sont pas mes élèves. Donc, le champ d'action est totalement limité. On ne peut pas s'interposer dans la vie des gens. J'ai été outré, mais surtout désespéré, très attristé. Je me dis que comment est-ce qu'une personne... C'est un jeune, il a 14 ou 15 ans. Oui, c'est jeune, la fille aussi, elle avait 14, 15 ans. Mais on se dit que, où est l'éducation des parents? Où est l'éducation religieuse que ces jeunes ont eue? Quel est le sens du ramadan qu'ils ont? Et comment Shaitan a pu les entraîner aussi loin que même le hurma, le caractère sacré du ramadan, ils ne l'avaient pas? Il y avait deux choses à faire, soit de descendre et de parler, mais vu... Ça n'avait pas l'air des gens très calmes, donc ça aurait été un peu compliqué. Ou alors de partir faire doua. Mais ce qu'on a fait, on a dit, ben, Allah le donne la guidée, le donne la hidayah. Donc il y a des fois où Shaitan, il embellit, il te fait croire que c'est pas grave, c'est ta liberté, c'est ton émancipation, ou ça ne regarde que moi, c'est ma vie, personne n'a à s'interposer. Tous ces discours de liberté, soi-disant, d'émancipation personnelle, tout ça, ce sont des waswas de Shaitan. Parce qu'il ne veut pas que tu reviennes vers le droit chemin. Il ne veut pas que tu acceptes le conseil, le nahi anil munkar. L'interdiction de faire le mal. Il te convainc que tu dois te replier sur toi-même, tu dois n'écouter que ton cœur. Tu fais ce que ton cœur te dit. Mais ce n'est pas ton cœur que tu es en train d'écouter, c'est ton nafs. C'est tes hawa, c'est tes pulsions, c'est tes passions. Donc on doit faire très attention. Quand une personne essaie de parler avec une fille, il se dit que non, peut-être c'est pas bien, il se dit qu'il y en a qui font l'adultère depuis des années, depuis tout le temps. Quand quelqu'un de l'adultère, il va se dire que oui, mais il y en a qui sont dans l'homosexualité, et ainsi de suite. C'est-à-dire que Shaitan, il a une capacité de te convaincre dans le péché qui est sans limite. Et moins tu as de iman, et moins tu as de ilm, ben, tu vas glisser vers dans les pierres de Shaitan. Et donc ça vraiment, on doit demander protection. Shaitan avait embelli les péchés pour ces personnes. Allah leur a accordé les biens de ce dunya. À un moment donné, ils se sentaient intouchables. Ils se sentaient au-dessus de tout le monde parce qu'ils possédaient tout. Et d'un regard extérieur, son monsieur pose. D'un regard extérieur, les gens, ils voient ces personnes en train de jouer de tous les bienfaits possibles. Ils se disent que, waouh, ce sont des gens qui ont de la chance, qui ont réussi. Mais ils n'ont pas réussi parce qu'ils ont des bienfaits, de la désobéissance, ils sont en train de s'auto-détruire. Et à un moment donné, Allah Azza wa Jalla les a pris soudainement. Hada. Et Ibn Kathir dit également, non, ça c'est le plus de Qatada. Wa ma akhadha Allahu qawman qat illa 'inda sakratihim. وفي نعمهم. Et lorsqu'Allah reprend, lorsqu'Allah sévit, avait, quand il avait l'habitude de sévir les peuples avant, c'était quand ils étaient dans le summum de l'opulence. Quand ils avaient tout ce qu'ils voulaient, c'est là que le châtiment d'Allah descendait. Donc, de un, ne soyez pas attristés quand on a des difficultés. De deux, ne soyons pas admiratifs de ceux qui réussissent alors qu'ils sont dans le kufr ou qu'ils sont dans le péché. Ce n'est là aucunement un signe qu'ils sont comblés. Bien au contraire. C'est peut-être qu'Allah est en train de laisser ces personnes s'enfoncer. C'est ce qu'on appelle en arabe istidraj. Hada. Hadith de Uqba bin Amir an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به إلى آخر الآية. De ce hadith apporté par le Musnad d'Imam Ahmed, le Prophète a dit que quand tu vois Allah donner à un serviteur les biens de ce monde على معاصيه, alors qu'il est dans le péché du matin au soir, et qu'il obtient tout ce qu'il aime, ma yuhibbu, tout ce qu'il aime, fa innama ay i'lam, sache que c'est istidraj, Allah Azza wa Jalla est en train, d'une certaine façon, l'éprouver par les biens, par les bienfaits, jusqu'à ce que la personne va s'enfoncer. Et là, le Prophète a lu le verset qu'on a cité tout à l'heure. Et il est bon de se rappeler de temps en temps les hadiths concernant la pauvreté, concernant, entre autres, ce athar de lequel il est relaté que les personnes pauvres, les personnes qui n'avaient pas de bien dans ce monde, vont entrer dans le Jannah combien d'années avant les riches? 500. Et là, on parle de croyants. On parle de personnes qui accomplissent leurs devoirs religieux. Un homme pieux qui a les moyens, un homme pieux qui n'a pas les moyens, le jour de Qiyama, ils ne seront pas à la même enseigne, si on pourrait dire. L'homme pieux qui était pauvre de ce dunya, il accédera au Jannah 500 années avant la personne qui était pieuse mais qui avait les moyens. Pourquoi? Parce que celui qui avait l'argent, qui avait des biens, qui avait des bâtiments, qui avait tout ça, ben il doit répondre de chacun de ses bienfaits. Alors que celui qui n'avait rien, il arrive, c'est comme si quand, l'exemple est décalé, vous allez en voyage, celui qui a 4 valises, marhum Younous a appelé ça des valoses. Quand on faisait le hajj avant, il voyait des pèlerins arriver avec des valises qui faisaient 40 kilos, il dit, c'est pas des valises, c'est des valeuses. Bref, quelqu'un qui arrive avec 40, 50, il y a parfois l'aéroport, des gens, ils ont emmené leur maison quand ils voyagent, et toi, tu es avec une petite mallette. Qui c'est qui passe plus vite? C'est la petite mallette, bien sûr. Tu poses, rien déclaré, non, RAS et tout, khalas, t'as même pas de poids. Celui qui débarque avec 5 valises, il va ouvrir, il va compter, il va, Allah, permettez-moi de vous raconter une petite anecdote, on se déconnecte un petit peu du verset. À l'époque, on était étudiant de Al-Madinah, Al-Munawwara, on revenait de, on était en vacances. Et à l'époque, il n'y avait pas encore la ligne Dubaï. Bah, donc, pour retourner à La Réunion, on faisait Jeddah, Nairobi. Et là-bas, c'était l'ambiance. Hein. Nairobi, Madagascar, et Madagascar, La Réunion. On voyait de tout, mashallah. Et on avait pris l'avion avec des étudiants de Madagascar, justement. Il n'y a rien de méchant. Hein. On avait plein d'amis de Madagascar. Et ils avaient amené mais des valises. Mais c'était incroyable. Ils avaient amené des caravanes de vêtements. Je pense que c'était un business. C'était des vêtements de marque. Ils allaient revendre certainement. Il n'y a pas de mal là-dedans. Il n'y a aucun mal. C'est du business. C'est du commerce. D'accord? Ils avaient acheté, ils allaient revendre. Le problème, c'est qu'ils avaient un excès de poids, mais c'était inacceptable. Même Saudi Airlines n'a pas accepté. Et quand Saudi n'accepte pas, c'est que vraiment, tu as un petit peu dépassé les limites. Et moi, je regardais. Je me dis, mais comment ils vont faire? J'observais de loin. Et incroyable, ces étudiants. Ils ont pris tous les vêtements de la valise. Ils sont partis dans les toilettes. Ils ont mis tout sur eux. J'ai vu ça de mes yeux, j'ai dit Madagascar, Forza Madagascar. Ils sont forts. Ils sont trop forts, Mada. Ils sont trop forts. Je n'avais même pas imaginé que humainement c'était possible. Ils étaient ressortis comme des Michelin. Ils marchaient comme ça. Mais ils avaient tous les vêtements et ils sont entrés, ils ont embarqué, ils sont arrivés au bled. Chapeau. Félicitations. Frère, Inch'Allah. Donc, c'était une petite anecdote. C'est pour vous dire que quand on se présente devant Allah Azza wa Jalla, c'est avec de bonnes œuvres, mais avec beaucoup de biens, beaucoup de richesses qu'on ait de ce dunya, ben, il y a des comptes à rendre. Et celui qui arrive les mains presque vides, parce qu'il y a quand même des bienfaits à propos desquels on aura à répondre, la jeunesse, enfin, la foi avant tout, la santé, la jeunesse, le temps, mais ça c'est commun, chaque être humain. Mais tant qu'il n'y a pas beaucoup de biens de ce monde, on va dire que le hisab sera beaucoup plus facile. Et encore une fois, on ne doit pas percevoir le dunya, on ne doit pas qualifier, ou juger la réussite ou non d'une personne en fonction de son pouvoir d'achat. Aucunement. Ce n'est pas là du tout un signe que la personne est aimée ou non par Allah Azza wa Jal. Hada. On a combien là? 26 000. Il faut s'arrêter là. Ce soir, Inch'Allah, on avait encore deux versets, mais c'est des thématiques vraiment différentes. Tu dois souhaiter l'an'am. Permettez-moi juste de compléter, de conclure avec un verset qui nous interpelle spirituellement. C'est dans la sourate Al-An'am, on est à peu près vers dans le verset 92-93. Ça, c'est un des versets de base qui nous rappelle quand on retourne auprès d'Allah Azza wa Jal, on retourne seul. Yuqalu lahum yawma ma'adihim hadha. Oui, bon, le tafsir est un peu long. Surtout, voilà ce qui nous intéresse, le shahid. Le sens de ce verset. Tout ce qu'on a pu cumuler comme bien de ce monde, on doit bien réaliser que lorsqu'on meurt, on n'emporte rien avec nous. Et ça, on n'arrête pas de le répéter. On le répète pour nous-mêmes en premier, parce que il y a des fois où notre cœur même s'attache au bien de ce monde. Mais on doit réaliser, autant tu investis, tu essaies d'obtenir, d'avoir telle chose, mais si la mort intervient dans 5 minutes, personne n'est enterré avec son argent ou ses biens. Personne n'est enterré, il peut dire que mettez ma carte American Express dans mon cafane, et mettez mon chéquier là, et mettez ma grosse gourmette en or que m'a acheté, là coûte au moins 6000 euros, j'ai payé en 12 fois, parce qu'il fallait l'avoir dans le quartier pour avoir un certain respect, mais personne n'est enterré avec ça. Les seuls qui ont été enterrés avec leur or, c'était les pharaons. Et certains sont passés derrière par souci archéologique pour piquer un peu tout l'or qui restait. Donc personne n'est enterré avec ses biens. Et le prophète alayhi salatu wa sallam dit dans un hadith, Yaqul ibn Adam, l'être humain dit ma li, mon argent, mes biens. Et même si on ne le dit pas, on le pense. Parce qu'on est attaché, c'est un sentiment humain, on aime ce qu'on possède. Wa halaka min malika illa ma akalta fa afnayt ila akhir al-hadith. Dis, réfléchis, ô mu'min, ô musulman, qu'est-ce que tu possèdes réellement? Les seules choses qui sont à toi, c'est ce que tu as mangé et que c'est fini, c'est digéré, ou ce que tu as porté comme vêtement et que tu l'as usé. Ou, et là c'est le plus important, ou tasaddaqta fa amdayt, ou alors ce que tu as eu, tu as donné en aumône, et ça c'est quelque chose qui va rester. Wa ma siwa dhalik fadhahibun wa tarikuhu linnas. Et tout ce que tu as en dehors de ça, sache que tu le laisses pour d'autres personnes. Personnes qui travaillent pendant des années, quand ils meurent, parfois il y a des gens qui travaillent énormément, qui gagnent de l'argent et qui vivent, ils se serrent la ceinture. Ils ne profitent même pas de leurs biens, ils veulent garder. Quand ils meurent, c'est distribué aux héritiers et eux, ils vont faire la fête dedans. Tout ce que tu as essayé de gagner à la sueur de ton front, tu as ce sentiment de responsabilité. Je veux laisser ça à mes enfants, j'aimerais qu'ils aient chacun une certaine autonomie financière, et ils ne vont pas faire cadar, comme on dit, de ce que tu as laissé. Ils vont faire la fête. Donc, c'est quoi le sens de tout ça? Et pour obtenir ces choses-là, tu as sacrifié ton dîn. Tu as sacrifié ta religion pour travailler plus, pour gagner plus. On a besoin de comprendre le juste équilibre entre ce dunya et le akhira. Qu'on se rappelle que lorsqu'un mu'min est enterré, il y a trois choses qui le suivent jusqu'à la tombe. Premièrement, ahlou, sa famille. Deuxièmement, ses actions. Et troisièmement, ses biens. Il y a trois choses qui t'accompagnent. C'est valable pour le sahaba qui est mort, c'est valable pour celui qui est mort à Saint-Clotilde, qui est enterré, quelle que soit la période, quel que soit le lieu géographique. Quand on meurt, il y a trois choses qui nous accompagnent. Jusqu'à le maqbara, jusqu'au cimetière. La famille vient, les biens et nos actions, les a'mal. Et lorsque la personne est enterrée, il y a deux choses qui retournent, il y a une seule chose qui reste avec lui. La famille s'en va, les biens également quittent la personne, et la seule chose qui reste avec toi, ce sont tes actions. Donc on réfléchit, qu'est-ce que tu veux amener dans ta tombe, qu'Allah nous donne la clairvoyance. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair.